l'après-midi, il est 8h19 sur Radio Panique et vous êtes bien à l'écoute de des Promesses de l'Aube et j'ai le plaisir d'accueillir en studio mes invités. Donc nous avons Claire Scoyer et Martin Rosenfeld de Inter-Environnement Bruxelles qui sont venus nous parler du dernier numéro de la revue d'IEB, donc Bruxelles en mouvement, qui s'intitule « Dans la gueule de la promotion immobilière ». Bonjour Claire, bonjour Martin.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Voilà, vous êtes venu présenter le numéro spécial, enfin c'est pas un numéro spécial, mais qui est consacré à la promotion immobilière et dans lequel vous mettez en avant eh bien, tout ce que les promoteurs immobiliers font à la ville, et notamment vous évoquez deux promoteurs immobiliers qui phagocytent un peu l'ensemble des nouveaux projets, mais aussi comment cette promotion immobilière peut façonner la ville. Vous évoquez aussi le fait qu'il y ait cette passion des promoteurs immobiliers pour construire des tours du grand et du bien visible. Et enfin, vous évoquez aussi dans ce Bruxelles en mouvement, l'impact que peuvent avoir ces promoteurs immobiliers sur le prix des loyers et sur la population en tant que telle. On sait, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'évoquer le contenu de Bruxelles en mouvement, est-ce que vous pouvez résumer en quelques mots ce que fait Inter-Environnement Bruxelles? Et donc, on sait que vous travaillez sur l'urbanisme à Bruxelles, mais quel est votre corps, votre
champ
principal, votre champ d'action,
de réflexion, d'action. Mais donc, Inter-Environnement Bruxelles, c'est une fédération de comités d'habitants, de comités de quartier, qui existe depuis le début des années 70. Donc voilà, on existe maintenant depuis plus de 45 ans. Donc notre travail a pu évoluer en fonction évidemment des évolutions de la ville de Bruxelles, des modifications de la planification urbaine, du contexte socio-économique, politique. On défend le droit à la ville, donc finalement c'est à la fois le droit des habitants à la démocratie urbaine, ça c'est un axe fondamental, mais qui dit droit à la ville, dit le droit d'habiter en ville, ce qui devient de plus en plus difficile. Le droit d'y travailler, le droit d'y avoir accès à l'éducation, à la culture, le droit au déplacement, enfin, tout ça, quoi.
Et justement, est-ce que là, le fait de choisir d'écrire cet article, ce Bruxelles en mouvement sur la promotion immobilière, est-ce que ça reflète une espèce d'accélération des activités des promoteurs immobiliers ces dernières années à Bruxelles? Est-ce qu'il y a une explosion de méga projets qui mettent vraiment en danger le bien vivre à Bruxelles et en tout cas aussi le renchérissement du prix de l'immobilier, du prix des loyers à Bruxelles?
Oui, tout à fait. En fait, la logique d'investissement change et elle change en fonction de ce qui, dans la ville, devient une fonction plus rentable finalement. Et pendant des années, IEB portait beaucoup d'attention au marché du bureau, parce que le bureau était considéré comme une fonction forte, c'est-à-dire une fonction rentable de la ville, ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui. Et on pourrait dire que depuis 2010, c'est le logement, en fait, qui est devenu cette fonction rentable, avec cette inquiétude qui fait que le logement, au lieu d'être avant tout pour le droit à l'habiter, d'avoir un toit, pouvoir au quotidien se loger, devient une fonction capitaliste, une fonction marchande, une fonction de profit. Et ça se répercute sur la manière dont nous, on est confrontés à des projets immobiliers dans le cadre des demandes de permis d'urbanisme, puisque un des travaux de fond d'IEB, c'est de suivre les demandes de permis pour les plus gros projets, hein, parce qu'il y a des milliers de demandes de permis, on ne peut pas toutes les suivre. Et donc voilà, quand il y a des gros projets immobiliers, et de plus en plus, effectivement, on se trouve face à des grands ensembles de logements privés, et on va dire, qui s'adressent vraiment à la classe moyenne haute ou à l'élite, c'est du logement haut de gamme qui vise surtout à fabriquer de la rentabilité. D'ailleurs, peut-être que mon collègue Martin peut un petit peu nous parler, avant que j'aille plus loin sur la promotion immobilière, mais du contexte du logement, parce que c'est quand même une question cruciale à Bruxelles.
Oui, évidemment, je pense qu'on est tous conscients aujourd'hui qu'il y a une crise du logement à Bruxelles. Et en fait, si on voulait être exact, il faudrait parler d'une crise du logement abordable. La difficulté aujourd'hui à Bruxelles, c'est pas tellement de trouver des logements disponibles, c'est de les trouver à un prix que les familles sont capables de payer. Et donc, on voit depuis au moins une quinzaine d'années la part que chaque famille doit consacrer au loyer augmenter, parfois dans des proportions très inquiétantes. Et donc, la multiplication de ces grands projets immobiliers, le fait que ces promoteurs accaparent des terrains, font pousser des tours, essayent de mettre en place des projets toujours les plus rentables, en fait, vient aggraver cette crise du logement abordable. Et donc, on est dans une sorte de paradoxe où il y a des logements qui continuent à être construits, à arriver sur le marché, mais qui, en fait, vont avoir pour effet de compliquer encore plus la situation pour les ménages qui ont le moins de revenus. Ce qui est quand même une partie importante de la population en région bruxelloise.
Et donc, comment on explique un peu cette inadéquation entre finalement l'offre et la demande, alors que justement ces promoteurs immobiliers, ils prétendent répondre à une demande, mais ils sont complètement à côté du...
Oui, leur gros mantra, et c'est ça qu'ils vendent vers les pouvoirs publics, qui semblent y croire apparemment, c'est effectivement cette fameuse loi de l'offre et de la demande, et dire si on va produire plus de logements, forcément les prix vont baisser. Et donc, il y a une demande, puisque en plus en région bruxelloise, depuis les années 2000, on est plutôt face à une croissance démographique, alors que Bruxelles perdait des habitants depuis les années 60 jusqu'au début des années 2000. Aujourd'hui, effectivement, il y a une croissance démographique, néanmoins qui est en train de se tasser, et donc la promotion immobilière vend ça au pouvoir public en disant, ben voilà, vous avez une population qui croît et donc il faut produire du logement. Sans se poser la question, quel type de logement? Parce que quand on dit croissance démographique, se pose encore la question, est-ce que ce sont des ménages argentés, désargentés, quels sont leurs revenus? Est-ce que c'est le solde naturel? Est-ce que ça vient des naissances, hein? Parce que bon, je sais pas, si vous avez 5 ans, vous n'allez pas acheter un appartement. Est-ce que ça vient des soldes migratoires divers? Bon, cette question est peu posée, peu affrontée par les pouvoirs publics. Et donc, on est face aussi à ce mouvement de densification, à cette production. En fait, on produit, bon an, mal an, 3000 à 4000 logements par an, ce qui, en réalité, est largement suffisant pour loger tout le monde. Mais ces logements, effectivement, sont hors de prix. Alors, on dit, mais alors, il n'y a pas de demande. Donc, en fait, les promoteurs, ils vont rester le bec dans l'eau. Et donc, c'est ce qu'on appelle la financiarisation du logement, c'est-à-dire que comme le logement est une fonction marchande, une fonction de profit, en fait, on s'adresse à des actionnaires. Donc, Immobel et BPI, qu'on a étudié plus particulièrement dans ce dossier, sont des sociétés cotées en bourse. Donc, ces sociétés vont lever des fonds sur un marché capitaliste mondial, en fait. Donc, Immobel, au départ, c'est une structure belgo-belge qui date de la fin du 19e siècle, qui exerçait son métier plutôt sur le territoire belge et qui avait plutôt une mission de bureau, qui produisait plutôt du bureau. Après, on voit vraiment sa logique changer. À Yobi, on a vraiment vu sa logique changer à partir de 2015-16. C'est le fait qu'Immobel, à ce moment-là, a fusionné avec Alfin, qui, elle, était plus active dans le secteur du logement, et développé, justement, une politique sur un marché capitaliste beaucoup plus étendu, avec des levées de fonds vers des actionnaires. Et c'est là que j'en viens avec la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que l'objectif est de pouvoir verser des dividendes chaque année avec une forte croissance, pour créer de la confiance. Et donc, si on arrive à vendre vers ses actionnaires cette confiance et de dire, écoutez, voilà, moi, je suis en capacité d'introduire des projets, d'acheter des terrains, d'obtenir des permis, les fonctionnaires sont rassurés et rachètent des actions. Et là, finalement, peu importe qui vient loger ou pas, le promoteur, en fait, il vend clé sur porte. À la limite, il n'attend même pas que les murs soient construits. C'est-à-dire que sur des projets conçus, enfin, moi, je suis beaucoup, par exemple, le bassin de Beestebroek. On a entendu beaucoup sur Radio Panique, notamment, parler du projet Key West. Dès que le permis a été délivré début janvier 2021, Home Invest rachetait aux promoteurs, donc aux deux promoteurs Immobel et BPI, des logements qui n'étaient même pas construits, achetaient sans unité de logement, que eux vont en fait revendre à des actionnaires. C'est-à-dire que derrière, les gens n'achètent plus des appartements comme valeur refuge, mais en fait achètent les actions qui elles-mêmes sont liées à des loyers versés pour des appartements. Et donc c'est ça, la financiarisation du logement et ce décalage en fait qu'on observe. Il n'y a plus besoin de demande en fait pour produire de l'offre. Et étonnamment, les pouvoirs publics en fait laissent cette logique fonctionner, la cadrent très peu. N'impose pas dans ces mastodontes, dans ces masses de logements privés qui sont produits du logement social, qui est pourtant celui dont on a besoin, c'est celui-là. On sait qu'on a aujourd'hui 50 000 ménages sur les listes d'attente, alors que il y a quelques années, ils étaient à 45 000, encore un peu avant 40 000. Et quand moi j'ai commencé à travailler à IEB, c'était 20 000 ménages. Et donc c'est du logement social qu'il faut produire, mais non, on produit du logement privé qui a surtout une fonction de marchandise et qui sert surtout à verser des dividendes à des actionnaires qui eux-mêmes fonctionnent avec ces gros promoteurs immobilier, ou ce qu'on appelle des CIR, en fait, c'est des sociétés d'investissement réglementées, comme Home Invest, qui a racheté ses 11 appartements à Immobel et BPI.
En fait, il y a une sorte de transformation de la logique, mais parce que c'est quelque chose d'assez récent, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas complètement ou dont on ne mesure pas toute la portée, mais vraiment cette logique de financiarisation du logement a un impact très fort. Et ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, c'est plus quelqu'un qui va acheter un appartement pour y vivre ou même éventuellement pour le mettre en location. On est vraiment basculé dans cette logique d'actionnariat. Et finalement, une action, c'est quoi? C'est on va acheter un petit morceau d'une entreprise, non pas vraiment pour sa valeur actuelle, mais pour l'idée qu'on se fait de la valeur qu'aura cette société dans le futur. Et donc, on achète une promesse de rentabilité future. C'est vraiment ça le principe de l'action. Et quand on l'applique au logement, ça veut dire qu'on n'achète pas forcément un appartement pour sa valeur actuelle, mais bien pour l'idée qu'on se fait de la valeur qu'aura cet appartement dans le futur. Et ça amène quelque chose de nouveau, c'est qu'on peut avoir cette espèce de décalage temporel, se dire qu'on est prêt à investir dans une partie de la ville qui aujourd'hui n'a pas une rentabilité extraordinaire, mais dans laquelle on projette que d'ici 5, 10, parfois 20 ans, eh bien, la rentabilité aura explosé. Donc on peut avoir ce décalage entre le prix de certains appartements qui semble démesuré par rapport au lieu dans la ville où ça se construit, c'est ce qu'on voit par exemple autour du canal à Bruxelles aujourd'hui, et ce que tout le monde raconte comme projet autour de ce canal, de ce qui va devenir dans les années, dans les 10, dans les 20 ans prochains. Et puisqu'il y a une espèce de concordance entre cette vision que vend les promoteurs immobiliers et le discours que portent les politiques, et d'ailleurs les politiques qui vont investir de l'argent public dans ces territoires pour effectivement faire augmenter la valeur, eh bien on a une espèce de rêve qui finit par se réaliser, et donc des projets qui semblent en totale inadéquation aujourd'hui, sans doute dans le futur, auront une valeur bien supérieure, en tout cas suffisamment pour convaincre des actionnaires de continuer à acheter et investir dans ces sociétés.
Oui, parce que ce que vous montrez dans un des articles par rapport à ces deux à Immobel et BPI, c'est que par exemple Immobel, depuis quelques années, ont attribué une quantité de dividendes incroyable aux
les cinq dernières années, en fait, trois quarts de ses profits à Immobel partent en dividendes. Et quand tu lis un rapport d'activité d'Immobel, c'est assez intéressant parce que pour nous qui suivons les demandes de permis d'urbanisme, on voit que ces permis sont monétarisés, c'est-à-dire que Immobel les transforme en monnaie sonnante et trébuchante, et dans son rapport d'activité, il dit, ben voilà, en 2020, j'ai obtenu des permis pour autant de millions d'euros. J'ai des permis en attente pour 1,4 milliard d'euros. Donc voilà, le permis d'urbanisme, ce n'est pas produire des fonctions urbaines pour habiter, pour travailler, mais c'est directement monétarisé pour offrir des dividendes aux actionnaires. Et pour rebondir sur ce que venait de dire Martin par rapport en fait à ce phénomène de spéculation dans les quartiers, c'est-à-dire que on repère des territoires qui parfois au départ sont peut-être peu attractifs, peu valorisants, et puis on va essayer de justement de leur donner plus de valeur, et c'est ce qu'on explique dans le dossier. On appelle ça le rent gap. C'est-à-dire que un promoteur, on voit que beaucoup de logements se construisent aujourd'hui dans les quartiers centraux, les quartiers qui bordent le canal, les quartiers populaires, où effectivement les logements sont encore relativement accessibles, mais où parfois il peut être difficile d'attirer une élite ou des personnes avec un revenu plus aisé, parce que justement ils sont, c'est des quartiers considérés comme ou dangereux ou sales, bruyants, pollués, etc. Et le rent gap, en fait, c'est cet écart entre la valeur de base et la valeur finale qui crée le profit. Mais ce rent gap, il est souvent produit grâce à l'aide des pouvoirs publics. Et donc, on explique dans le dossier, par exemple, vous changez les affectations du sol. Le bassin de Bistebrook, jusqu'à pas longtemps, c'était une zone d'industrie urbaine. Vous pouviez n'y construire que de l'industrie, des espaces pour de la production, ce qui est une fonction assez faible de la ville. C'est peu rentable, ça consomme beaucoup d'espace, il faut acheter beaucoup de terrain, vous pouvez pas monter en hauteur. On change les affectations, on dit, ah ben, désormais, vous allez pouvoir construire du logement. Ben, les promoteurs qui ont le nez fin, en fait, qui anticipent et qui, avant même, en fait, que les plans soient adoptés, achètent ces terrains-là, ils les achètent à bas prix. Ensuite, le plan est adopté par le pouvoir public. La valeur monte, puisque désormais, vous pouvez construire du logement. Et en plus, les pouvoirs publics adoptent des plans qui autorisent des gabarits en hauteur. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Pourquoi on voit émerger des tours? En fait, les tours, c'est pas juste une morphologie, une question architecturale, ou le fait, la mégalomanie d'hommes qui veulent marquer de la ville avec leur phallus. Il y a peut-être cette dimension-là, hein, il faut pas le nier, les grands gestes forts et compagnie. Mais dans le même temps, c'est surtout que si sur la même parcelle de terrain, vous pouvez produire beaucoup plus de logements en montant en hauteur, bah forcément, c'est nettement plus rentable. Et donc ça, c'est tous des éléments qui contribuent au rent gap, ou aussi toutes ces interventions des pouvoirs publics via des contrats de rénovation urbaine, des contrats de quartier, qui vont pacifier l'espace public, l'aménager, le rendre plus sympathique. Et donc, c'est ce qu'on voit beaucoup aussi dans tous les quartiers centraux. Et par exemple, récemment, je lisais dans la Libre Immo, 3 pages sur Kureghem, quartier très populaire entre la gare du Midi et les abattoirs d'Anderlecht, titré « Kureghem, il y a du boulot, mais on y travaille ». Et en fait, tout l'article, c'est en fait valoriser le passé historique industriel de Kureghem, mais pour le rendre valorisable, en fait, ses vertus, cet exotisme d'un quartier de migrants, mais qui a quand même gardé certains attributs, certains charmes, avec des maisons, avec art nouveau, avec des graffitis, etc. Et donc, c'est 3 pages vraiment de valorisation immobilière d'un quartier populaire, et on annonce les prix, et là, vous pouvez encore trouver des appartements à 2000 euros du mètre carré, ce qui devient de plus en plus difficile en région bruxelloise. Et donc, tout ça créer en fait effectivement du profit au profit des promoteurs et derrière eux en fait des actionnaires. Il faut savoir, si on prend Immobel ou BPI, derrière ils ont des actionnaires majoritaires. Immobel, c'est Marnix Gall, et en fait il détient à 60% la société. Donc en fait c'est lui le plus gros profit, c'est lui qui le fait. Et Marnix Gall, on l'avait rencontré il y a quelques années, il avait sorti cette phrase qui nous a sidéré, c'est les habitants d'aujourd'hui sont les ennemis de la ville de demain. Ça, c'est, en termes de démocratie urbaine, c'est magnifique.
Un tout petit mot aussi sur cette question des dividendes, simplement pour dire qu'effectivement, ces grandes sociétés se placent dans une dynamique de financiarisation où elles sont obligées de capter en permanence des fonds qui viennent du marché global. Et donc, ce qu'elles doivent avant tout vendre, c'est cette image d'une société très prospère, capable de générer beaucoup de projets et de rendre beaucoup de dividendes. Et donc, Manning's Gale, qui est à la tête de la société Immobel depuis 2016, il s'est engagé à chaque année augmenter les dividendes qu'il allait reverser à ses actionnaires. Alors on pourrait dire c'est facile, effectivement il en détient 60%, donc quand il reverse des dividendes, c'est avant tout dans sa poche qu'il les met, mais néanmoins il vend du coup une espèce de rêve, au point que en 2017 les bénéfices de la société étaient de 11 millions d'euros et pourtant 20 millions d'euros ont été reversés aux actionnaires. Donc il y a une volonté de préserver cette image d'une société très prospère, capable de générer de nombreux projets et de générer du profit, quand bien même ça ne correspond pas exactement à la réalité. Mais donc voilà, il faut à tout prix maintenir cette image puisque c'est elle qui permet de garantir cet afflux permanent de capitaux en provenance du marché mondial.
Et justement, à propos de ce rêve qui est vendu aussi, c'est comme ça qu'ils le vendent aussi aux citoyens pour pour faire passer la pilule, entre guillemets, et donc ils vendent une ville merveilleuse où on a une vue magnifique sur...
Et les grandes opérations de séduction. Bon, c'est dommage qu'Aline Farret soit pas là, parce que, avant tout, je voulais d'ailleurs la remercier, hein, parce qu'elle a quand même fort porté ce dossier. C'est elle qui nous a aidé à creuser un peu toutes ces arcanes de l'immobilier, et aussi remercier Sarah Delatte. Mais donc, le premier article du dossier, c'est un petit peu toute cette opération de séduction, en fait, le fait qu'on va créer des nouveaux quartiers durables, que toutes ces grandes tours de logements vont être végétalisées avec des toitures vertes. On voit sur les prospectus vraiment des bâtiments translucides, verdoyants. Si vous êtes au bord du canal, le canal devient azur. Il n'y a pas une seule péniche ou une seule grue. On voit des petits kayaks, on voit des piétons qui se promènent au bord de l'eau. Pas de camions, pas. Enfin voilà. C'est assez saisissant quand on voit souvent les panneaux de chantier, les palissades de chantier autour des projets. Moi, je me balade beaucoup autour du bassin de Bistebrook et tout d'un coup, je me dis, ah oui, tiens, ça c'est le canal, on voit des rhododendrons, etc., enfin, des choses qui n'existent pas. Mais alors évidemment, comme les gens achètent de loin en surfant, achètent des actions, etc., finalement, bon, bah, ces images de rêve, ça fonctionne assez bien. Puis on voit toujours des appartements en témoin avec des vastes vues sur Bruxelles. Et c'est comme ça, par exemple, si vous voyez la tour Upside, que tout le monde maintenant connaît malheureusement à Bruxelles, qui est ce que nous on appelait un gate communities vertical. Donc c'est la plus haute tour de logement à Bruxelles, qui fait 140 mètres de haut, qui est en face de Tour et Taxi.
Oui, voilà, hein,
un ghetto de riches, c'est pour ça qu'on disait une gated communities verticale, avec à l'intérieur ses salles de fitness, son cinéma, enfin tout ce qu'il faut pour vivre à l'intérieur sans devoir sortir dans un quartier considéré encore comme craignos. Et donc l'argument de vente d'Athénor, parmi les différents arguments de vente, au-delà du fait que c'était un produit financier et qu'il promettait un taux d'intérêt de 4 à 6 %, c'était de dire, ne vous inquiétez pas, toutes les activités qui sont sales autour, comme les tours à béton, les ferrailleurs. Pour ceux qui voient un petit peu par là, vous voyez Steven, c'est une entreprise qui recycle, en fait, donc qui a tout à fait des vertus environnementales. En réalité, c'est du recyclage des carcasses de bagnoles qui sont utilisées à Bruxelles. Ou les bétonneurs, mais en fait, on n'aime pas le béton, mais voilà, toujours est-il que la ville, pour le moment, se construit en grande partie à base du béton, et que d'avoir du béton produit localement, ça a du sens. Mais l'argument de vente d'Athénor, c'est de dire, ne vous inquiétez pas, tout ça va disparaître. Et effectivement, il y avait des velléités, des tentatives de la part des politiques, des pouvoirs publics, de dire, ah, ça ne va pas d'avoir des tas de ferrailles à 2 kilomètres dans la Grand Place. Comme si les gens qui viennent à la Grand Place voient évidemment les tas de ferrailles de Stevens qui sont en fait le long des quais tournés vers le canal. Et donc, heureusement, en fait, ces activités pour le moment ont été sauvées. Mais donc, en fait, ce rêve est vendu aussi à partir des aménités qui se développent autour de ces projets immobiliers. Par exemple, le musée Canal, le futur musée d'art contemporain, est vraiment un argument de vente pour ces promoteurs qui vont dire que c'est à 2 pas du futur musée d'art contemporain, et ainsi de suite. Et ces opérations de séduction, ils les ont essayées vis-à-vis de nous, parce que parfois, ils nous démarchent au début en pensant pouvoir nous convaincre en fait des vertus durables et environnementales, qui vont avoir des certificats BREEAM, etc., que tout sera avec voilà, évidemment, des chaudières à condensation, des toitures vertes, des panneaux solaires sur le toit. Mais beaucoup de ces projets fonctionnent aussi quand on est dans les quartiers centraux déjà très denses et très construits, par des opérations de démolition reconstruction qui en fait sont, elles, très énergivores par rapport à une opération de rénovation. Et pourquoi ils démolissent? C'est pour souvent construire plus dense, plus en hauteur, ce qui est plus profitable pour eux, évidemment, qu'une opération de rénovation, sans compter qu'à l'heure actuelle, et ça c'est assez scandaleux, tu payes moins de TVA si tu démolis et tu reconstruis du bureau pour construire du logement, ce qui est encore de nouveau tout profit pour le promoteur. Je sais pas, Adair Martin, à cet égard, tu peux peut-être parler du CCN, ou je ne sais pas.
Mais en tout cas, voilà, tout un discours qui est vendu par ces promoteurs immobiliers, et c'est un discours qui reçoit un certain écho auprès des politiques qui sont souvent prêts à embrayer le pas et à effectivement non seulement délivrer des permis, mais aussi construire une série d'aménagements, d'aménités autour de ces projets, ce qui en fait vraiment exploser la valeur. Et donc on est dans une forme de décalage entre ce discours qui à la fois promet des solutions en termes de logement, donc c'est vraiment l'idée de, il manque des logements à Bruxelles, lesquels nous, on va construire ces logements. Et puis, des discours aussi qui, parfois même, comme tu viens d'expliquer, Claire, utilisent des arguments d'ordre écologique en disant aujourd'hui, regardez, COP 21, il faut faire des efforts en termes d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Et donc, ils vont se présenter comme étant une partie de la solution par rapport à ces grands défis, qui sont des défis qui nous concernent tous. Mais en fait, si on creuse un peu et si on observe ce qui se passe derrière, c'est souvent exactement l'inverse qui se passe. Les projets immobiliers, c'est des projets qui sont énormément énergivores, qui polluent énormément. Donc le bâtiment, c'est un des secteurs les plus polluants aujourd'hui en termes de production de CO2. Et donc c'est extrêmement rare qu'un projet véritablement ait un impact bénéfique en fin de compte. Si on fait tous les coûts de ce que va coûter la démolition, le recyclage des matériaux, etc., c'est quand même extrêmement coûteux. Pareil en termes de logements. Certes, des logements vont être construits, mais c'est des logements qui ne s'adressent pas du tout aux personnes qui en ont besoin aujourd'hui et qui vont, à l'inverse, avoir comme effet d'augmenter le prix du foncier, d'augmenter le prix des loyers dans l'environnement direct de ces projets. Et donc, il y a souvent un décalage entre ce qui est mis en avant, ce qui est vendu par les promoteurs et la manière dont ces projets interagissent réellement sur la ville. Mais parce qu'ils parlent avec des beaux discours, parce qu'ils ont les moyens de vendre du papier glacé, parce qu'ils sont chaque fois plus imaginatifs dans la manière de faire la promotion de leurs projets. Encore récemment, on a vu des clips vidéo, des chansons. Voilà, il y a plus de limite dans comment vendre ces projets. Et du coup, ben, il y a une série d'oreilles qui sont attentives à ce discours et qui embrayent le pas à ces énormes promoteurs.
Et justement, on se pose toujours la question de savoir pourquoi... Enfin, vous évoquez à plusieurs reprises cette espèce de collusion qui peut y avoir entre ces promoteurs immobiliers et les pouvoirs publics qui attribuent quasi l'ensemble des marchés à ces grosses compagnies, à ces gros promoteurs immobiliers. Est-ce qu'il y a une méconnaissance totale de ce que ces sociétés font vraiment ? Est-ce que Comment on explique, ou est-ce que les pouvoirs publics sont juste béats d'admiration devant ce que vous venez d'évoquer, les beaux papiers, les beaux catalogues en papier glacé?
C'est sûr que le chant des sirènes a l'air de fonctionner, les opérations de séduction fonctionnent, et qu'en région bruxelloise, en fait, si on regarde par rapport à d'autres villes européennes, on a un marché très libéral, c'est-à-dire que les pouvoirs publics sont très peu cadrants à tous les niveaux. Par exemple, je parlais tout à l'heure des changements d'affectation du sol qui en fait créent des plus-values, c'est-à-dire que vous avez un terrain où vous ne pouviez construire que dans l'industrie, tout d'un coup vous pouvez construire du logement, vous faites une plus-value. Dans les autres villes européennes, en général, on capte une partie de ces plus-values, on taxe une partie de cette plus-value. C'est pas le cas à l'heure actuelle en région bruxelloise. Enfin, apparemment, il y aurait des projets aujourd'hui en ce sens. Le problème, c'est que ça arrive tard, c'est-à-dire que ce marché immobilier, cette financiarisation de l'immobilier et du logement sont pleins. Il y a démarré en force après, on va dire, 2007, et que donc le prix du terrain a déjà flambé. Et donc ces mesures, il aurait fallu les adopter en amont. C'est pourquoi on a plaidé très fortement à l'époque, en 2012, quand le plan régional d'affectation du sol a été fortement modifié et a généré ses plus-values. IEB plaidait pour qu'il y ait une captation de ses plus-values. Le gouvernement n'en a rien fait. Donc ça, c'est une mesure qui pourrait être adoptée, qui ne l'est pas. Récemment, Martin et moi, on a assisté à des discussions sur la création de périmètres de préemption, ce qui existe aussi dans pas mal d'autres villes européennes et d'autres pays européens. C'est-à-dire que le pouvoir public a un privilège par rapport aux autres acquéreurs quand quelqu'un décide de vendre un terrain. Dans les autres pays, en général, on peut négocier ce prix, parce que sinon c'est le prix du marché. Et donc, si les prix ont déjà flambé, les pouvoirs publics ne sont pas en capacité de racheter ces terrains. Et donc, nous, dans cette intervention, on plaide pour, en cas de périmètre de préemption, qu'il y ait une capacité de négociation sur le prix, et aussi sur le fait que cette préemption soit exercée pour réaliser du logement social et pas pour réaliser du logement acquisitif. Par exemple, on n'a pas encore parlé de CityDev. Alors CityDev, c'est un opérateur immobilier qui permet d'acquérir des logements à 30% en dessous du prix du marché. Donc c'est-à-dire que vous avez une aide des pouvoirs publics qui interviennent à hauteur de 30% du prix de l'appartement. C'est considéré comme du logement public, mais en fait, 20 ans plus tard, l'acquéreur peut très bien remettre ce logement sur le marché privé et ainsi dégager une plus-value qui n'est absolument pas, elle, taxée, qui n'est pas du tout, qui ne revient pas au profit du pouvoir public. Or, les promoteurs travaillent énormément avec CityDef. CityDef est un pionnier pour gentrifier les quartiers populaires. C'est-à-dire que dans des quartiers dits difficiles, on construit d'abord du CityDef. Donc vous allez avoir une petite classe moyenne qui va acquérir et essuyer les plâtres en fait de ces quartiers difficiles. Et puis une fois que les choses seront mieux aménagées, les promoteurs vont autour de ces logements CityDev construire leurs logements plus haut de gamme. Et donc comme tu disais, alors peut-être pas parler de collusion, mais qu'en tout cas le pouvoir public a la croyance qu'en laissant faire ce marché, on va attirer une classe plus aisée qui elle va payer des impôts. Alors déjà, il faudrait dire que si vous attirez des rentiers, ces gens payent très peu d'impôts. Donc, souvent, c'est le travail qui est taxé. On est encore dans cette logique-là. Et que les gens qui payent des impôts, c'est les travailleurs. Donc, souvent, c'est pas les plus riches. Les auctionnaires, eux, payent souvent très peu d'impôts. Par ailleurs, on sait bien aujourd'hui, et ça porte pas que sur Bruxelles, mais que le ruissellement des richesses, hein, de se dire si vous amenez des riches dans des quartiers pauvres, ça va partager les richesses, mais pas du tout en général. Ça va juste faire monter les prix et petit à petit créer ce qu'on appelle la gentrification. Les gens ne sont plus capables de payer les loyers, ne sont plus capables de payer les produits qui sont vendus dans des commerces où les prix montent parce qu'il y a un nouveau public qui, lui, a le portefeuille pour acheter ces produits-là. Donc le ruissellement ne fonctionne pas. Et donc, je pense que la région bruxelloise se rend compte aujourd'hui, pour partie, qu'elle a raté le coche, qu'elle aurait dû adopter ces mesures telles que les captations de plus-value, les périmètres de préemption, etc. Mais elle est en train de le faire, mais vraiment avec le petit orteil dans la piscine, et elle n'ose pas l'y mettre, quoi. Hein, donc, ça reste très, très frileux. Et parce qu'il y a tout ce discours autour et ces pressions, enfin, la mixité sociale, le vivre ensemble, il faut rénover les quartiers populaires, et puis on ne peut pas vivre qu'avec des pauvres, etc. Enfin, tous ces discours-là sont encore bien présents, même si on voit petit à petit, de façon frileuse, des mesures liées au logement social, comme le fait d'imposer jusqu'à un certain point dans des gros projets immobiliers 25% de logement social ou à finalité sociale. Après, j'ai laissé Martin expliquer ça très bien, je crois, logement social, à finalité sociale. Non,
mais ouais, je peux dire un mot sur le logement social, mais quand même quelque chose qui moi continue de me sidérer effectivement, c'est à quel point les pouvoirs publics embrayent facilement sur ce discours. Il y a quelque chose qui quelque part dépasse un peu l'entendement, parce que aujourd'hui toutes des choses que Inter-Environnement Bruxelles dénonce depuis une dizaine d'années sur la gentrification, sur les risques, sur l'appauvrissement de la population, sur le fait que finalement des personnes précarisées qui consacrent de plus en plus d'argent à payer leur loyer vont finir par devoir demander des aides sociales ailleurs, et que donc collectivement ça va nous coûter très cher, et que donc il y a un intérêt à se protéger collectivement contre ces dynamiques. Voilà, malgré tout ça, des choses qui sont dites et sues maintenant depuis des années, il y a très peu qui est mis en œuvre, et donc il y a une espèce de subjugation par rapport les dynamiques qui se jouent, et quelque part on pourrait presque parler de sorcellerie. C'est comme si on était sous l'emprise d'un sort collectif. Le capitalisme déroule un discours sur voilà une série de phénomènes, de dynamiques qui sont inéluctables, et pour preuve, ça se passe dans le monde entier, toutes les grandes villes y passent, regardez les autres capitales européennes. Et donc il y a une espèce d'idée de finalement ce sont des dynamiques qui nous dépassent, sur lesquelles on n'a pas de prise, contre lesquelles on ne peut rien faire, et donc quelque part autant leur emboîter le pas, ou en tout cas ça ne sert à rien d'essayer de se dresser contre cette dynamique. Et donc bon, voilà, Aline Farès parlerait beaucoup mieux de tout ça que moi. Elle a beaucoup développé cette question de la sorcellerie capitaliste, mais l'idée quand même dans le numéro qu'on présente ici et dans le dossier, c'est d'essayer de déconstruire cette logique, de prendre finalement ces acteurs qui semblent énormes, qui semblent intouchables, qui jouent dans plusieurs pays en même temps, et de regarder à la loupe qui ils sont, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font, et quel est l'impact finalement de leur société et de leur manière de fonctionner sur la ville, pour un tout petit peu retourner finalement et voir l'envers du décor, comprendre les logiques derrière et pouvoir sortir de cette sorte d'envoûtement dans lequel on est un peu empêtré aujourd'hui, et dans lequel je pense beaucoup de politiques restent empêtrés créer, cette dimension un peu inéluctable.
Et justement, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi le fait, on a largement évoqué que l'existence des actionnaires, mais quel impact ça a aussi sur les petites gens, on va dire, la classe moyenne qui achète son logement, eux aussi participent à cette financiarisation de l'immobilier, presque sans le savoir.
Si vous restez dans votre logement, bon, il se passera pas grand-chose. Le problème, c'est quand vous revendez votre logement. Parce que généralement, au moment de la revente, ben, vous allez avoir besoin de faire une plus-value pour racheter un autre logement. Et c'est ça, évidemment, le cycle infernal. C'est pour ça que, quelque part, il y a cet effet pervers de la propriété. Si vous êtes propriétaire occupant, finalement... vous allez moins participer à cette financiarisation. Il se fait qu'à Bruxelles, la majorité des personnes sont locataires. Donc Bruxelles est une ville avec 60% de locataires. Et si vous regardez dans des quartiers centraux comme autour de la gare du Midi ou Keurigem, on est à 80% de locataires. Ce qui veut dire qu'en fait, la majorité des propriétaires ne sont pas occupants, mais utilisent le logement pour faire du profit. Par ailleurs, là, on pense donc justement plutôt peut-être le multipropriétaire, mais particulier, qui a 3 ou 4 logements. Mais comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a ces structures d'investissement comme Oomin Invest, et qui, elles, en fait, sont des gestionnaires immobiliers, de vastes ensembles immobiliers qui louent dans l'idée que le loyer sert en fait de rente pour promettre un taux d'intérêt de 4 à 6%. Et donc là, on est vraiment tout de suite dans ce que Manuel Albers, un chercheur, appelle la financiarisation 2.0. La 1.0, c'est tu achètes, tu revends, tu fais une marge bénéficiaire, voilà. Et ici, on est plutôt carrément dans, de nouveau, ces vastes opérations de société cantées en bourse, comme on l'a déjà répété à plusieurs reprises, visant à distribuer surtout des dividendes à des actionnaires. Donc il y a plusieurs, évidemment, gradations entre le propriétaire occupant, le multipropriétaire et puis les grands ensembles immobiliers. Alors, peut-être toucher un petit mot aussi des agences immobilières sociales, parce qu'elles ont certains effets pervers, ces agences immobilières sociales. Parce qu'on dit, tiens, c'est une façon de socialiser le marché privé, et de fait, c'est cette possibilité, finalement, de confier son logement à une agence immobilière, certes, mais qui va pratiquer un prix juste au-dessus du prix du logement social, donc ce qui a certaines vertus. Si ce n'est que ces agences immobilières sociales sont, par exemple, notamment démarchées par des promoteurs qui vont de nouveau payer un taux de TVA moins important parce qu'ils fonctionnent avec une agence immobilière sociale. Et que là, c'est le pouvoir public qui essuie les plâtres, c'est-à-dire que finalement, ces promoteurs vont avoir les loyers garantis grâce à des investissements publics, puisque c'est le pouvoir public qui essuie en fait le différentiel si maintenant le locataire ne s'est pas payé, alors que les loyers, eux, doivent tomber chaque mois. Par ailleurs, le jour où vous arrêtez le mandat, l'agence immobilière sociale, ça retombe sur le marché privé. Donc aujourd'hui, c'est les logements qui sont repris en mandat de gestion par les agences immobilières sociales sont comptabilisés dans les logements publics dits à finalité sociale, alors que ça reste du logement privé. Donc voilà, vous avez toute cette palette, et quelque part la palette la plus faible, c'est le logement social stricto sensu, dont la part ne cesse de se réduire en région bruxelloise. Déjà, on a une part très très faible, hein, parce qu'on vous parle de beaucoup de villes, que ça soit Rotterdam, Paris, Vienne, c'est des villes où il y a des problèmes de logement, hein, ça n'est pas à nier, mais où il y a quand même entre 20 et 40% de logements sociaux. Chez nous, on a moins de 7% de logements sociaux, et la part du logement social, puisqu'on produit massivement du logement privé, la part du logement social, elle se réduit. En fait, donc même si vous augmentez à l'unité de 100 logements sociaux, puisqu'il y a de plus en plus de ménages, en réalité, le pourcentage de logements sociaux en région bruxelloise aujourd'hui est en dessous de 7%, ce qui est assez dramatique.
Et vous dites dans un des articles, je pense, de Martin, justement, que plus de 40% de la population bruxelloise pourrait rentrer dans les conditions pour avoir accès à un logement social, en fait.
Mais oui, mais c'est sûr que Bruxelles est dans une situation très particulière. En fait, depuis la création de la région de Bruxelles-Capitale, il y a eu plutôt historiquement cette idée que les classes moyennes qui avaient les moyens allaient quitter le centre-ville pour s'installer en périphérie, acheter une maison avec jardin, etc. Et puis ce n'est que depuis le début des années 2000 que la tendance s'est inversée et que il y a eu un intérêt pour les parties plus centrales de la ville. Mais donc historiquement, à Bruxelles, les quartiers les plus pauvres se concentrent en plein centre, le long du canal, en fait, dans ce qu'on appelle le croissant pauvre. Et donc, on a un phénomène très particulier, c'est qu'on a une population assez précarisée qui habite au centre-ville, et c'est une population qui n'a pas la possibilité de déménager en périphérie. Si on pense aux villes françaises, où les quartiers les plus prestigieux sont au centre-ville, ben, l'idée, c'est que si on n'est plus capable de payer les loyers, on va aller un peu plus loin, et puis s'éloigner de plus en plus, jusqu'à se retrouver dans les barres de logements sociaux qui sont en banlieue. C'est pas du tout la même logique à Bruxelles, et donc, on a cette pression de personnes qui payaient des loyers très bas au centre-ville mais qui voient les loyers augmenter dans cette partie de la ville et qui n'ont pas la possibilité de quitter, à moins de carrément quitter Bruxelles complètement. Donc c'est une situation extrêmement difficile. De nombreux ménages qui sont locataires, comme l'a dit Claire, et qui ont des revenus limités. Et donc effectivement, presque la moitié des ménages bruxellois seraient dans les conditions pour pouvoir prétendre à un logement social. Et il y a d'ailleurs 50 000 ménages qui sont aujourd'hui en attente d'un logement social, qui sont sur liste d'attente, mais on en produit extrêmement peu chaque année, donc on a une situation effectivement extrêmement tendue. Or, le logement social, c'est véritablement l'outil qui permet de remettre le logement pour ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire un besoin essentiel auquel on devrait tous pouvoir prétendre. Le logement, c'est un droit, c'est un besoin primaire, et le logement social, c'est le seul outil qui permet de renverser la logique en attribuant un logement non pas sur base de ses revenus ou de la valeur intrinsèque du logement, mais sur base des moyens dont dispose la famille. Et donc on va calculer le prix du loyer en fonction des revenus des personnes et non pas en fonction de l'appartement qui est occupé. Et donc c'est véritablement mettre le logement pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un besoin primaire. Et tous les autres types de logements, eh bien, sont dans une logique capitaliste de mise en compétition avec une explosion des prix. Et le summum de cette logique-là, c'est les logements qui sont produits par les très grands groupes qui, eux, fonctionnent sur le principe de cette financiarisation du logement.
Eh bien, merci beaucoup. En fait, si je vous ai invité, c'était aussi pour parler de la soirée qui aura lieu vendredi au DK. Et donc, c'est une soirée au cours de laquelle vous présenterez ce numéro en compagnie des autres auteurs, autrices.
Oui, ça sera en compagnie d'Aline Fares, qui nous fera d'ailleurs une petite séance de désensorcellement dont elle a le secret. Après, la soirée elle-même, elle est complète, mais néanmoins, il sera possible de la suivre en streaming. Donc, si vous allez sur le site d'IEB et que vous trouvez l'information sur l'annonce de la soirée de ce vendredi 4 février au DK, vous trouverez un lien pour pouvoir néanmoins assister malheureusement de loin. Je voulais en profiter aussi pour faire des annonces par rapport à diverses actions qui permettent en fait de résister à cette vague de financiarisation, cette vague immobilière. Il y a le dimanche 27 mars, il y a le Housing Action Day qui en fait est devenu presque une tradition, heureusement. Donc c'est aussi le 26 et le 27, une grande manifestation, événement sur le droit au logement et dont la revendication est sociale sera de demander la baisse des loyers. Il y a Action Logement Bruxelles. En fait, si vous allez sur le site d'Action Logement Bruxelles, il y a une pétition qui demande la baisse des loyers. Et puis, par rapport à tous ces gros projets immobiliers, par exemple, pour le projet Key West à Bistebrook, il y a toujours une pétition qui circule. En fait, le permis est annulé, donc il y a encore moyen de résister à la finalisation de ce projet. Immobilier et BPI ont aussi d'énormes projets autour de la gare du Midi, avec des deals immobiliers entre la SNCB, un consortium où il y a Immobel, BPI, mais aussi Bézix. Et là aussi, il y a moyen de signer, en tout cas, vous pouvez trouver sur le site d'IEB ou sur le site de Midi-1, une pétition. Enfin, voilà, la société, les habitants, les collectifs s'organisent pour ne pas laisser faire ce marché.
Et puis, Tous les articles du dernier numéro donc de Bruxelles en mouvement dans la gueule de la promotion immobilière sont disponibles sur le site d'Inter-Environnement Bruxelles. Donc vous pouvez aussi les retrouver, les télécharger si vous n'avez pas la chance de mettre la main sur un numéro papier qui sont distribués un peu partout dans Bruxelles.
Et vous pouvez vous abonner aussi.
Ah merci Zoé, oui. Et c'est pas très cher en plus, franchement.
Non.
Pour avoir ce beau journal entre vos mains.
Voilà,
chez
et
vous,
effectivement, il est très beau et il est très joliment illustré, comme d'habitude, hein, mais cette fois-ci, il est particulièrement.
Eh bien voilà, alors du coup, on va remercier Axel Klaas, qui est en fait la patte graphique illustratrice qui a dessiné toutes ces pieuvres, ces requins, ces fonds marins. Oui, on est très contents aussi et bien, de pouvoir en parler. Sur panique.
Merci beaucoup Claire et Martin d'être venus de grand matin. On se retrouve la semaine prochaine et puis restez à l'écoute de Radio Panique avec différentes émissions à la suite.